Et nous sommes toujours dans Ondes Noires et toujours pour parler de romans qui sont autant de coups de cœur et évidemment des romans très noirs. Là, nous allons partir en Amérique du Sud avec Ramón Díaz Heterovic et le dernier livre qui est sorti chez Métayer, traduit par Bertie Osberg et qui s'appelle « L'obscure mémoire des armes ». Alors, j'ai déjà parlé de cet écrivain. Si vous ne le connaissez pas, il a un personnage récurrent, comme ça se fait pas mal dans le polar actuellement. Ce héros s'appelle Heredia, c'est pas pour rien. Joli hommage. C'est un privé, donc détective privé, désabusé, même alcoolisé, on peut dire. Et là, évidemment, il est de retour. Pour enquêter sur un meurtre, mais aussi beaucoup errer dans sa ville, Santiago. C'est un peu un héros chandelérien, quand même, hein. Pour aimer aussi sa compagne, Grisetta, qu'il ne voit pas souvent quand même, et puis surtout nourrir son chat, qui s'appelle Simnon. Mais Simnon, il est important parce qu'il est toujours de ses conseils avisés dans toutes ses aventures et dans toutes ses enquêtes. Cette fois, comme les autres, on va avoir un assassinat, là, un anonyme, German Reyes, et comme dans les autres histoires de Díaz Heterovic, ça va résonner avec le passé et la dictature. Heredia qui, comme il le dit dans un précédent roman, qui s'appelle La couleur de la peau, j'aurais préféré oublier ces noms fantomatiques pour laisser le passé tel qu'il était. Un résumé d'erreurs et d'horreurs. Mais ce n'était qu'une illusion. Le passé, mon passé, et tout ce qui m'entourait, était gravé en moi comme une seconde empreinte digitale. Donc Heredia va être obligé, une fois encore, de plonger dans les années Pinochet pour retrouver quelques tortionnaires de la Villa Grimaldi, où j'ai appris d'ailleurs dans les romans de Heterovic que c'était un des hauts lieux de la torture sous la dictature. Si l'intrigue est intéressante, sans plus, mais attention, c'est pas une critique, c'est pas pour cela que je vous conseillerais de lire cet excellent roman. D'abord, vous aimerez le personnage d'Heredia, cette espèce de tough guy à la Chandler, d'ailleurs souvent cité dans les livres du Chilien, qui erre dans les quartiers populaires, un peu comme les personnages de Montalban ou de Ledesma dans le barrio chino de Barcelone. Comme leur héros, il aime les humbles, les petits, il les aide et les défend. Il n'a lui-même pas beaucoup de fric. De toute façon, c'est simple, il accepte que des clients pauvres ou des fois même il ne se fait pas payer. Mais c'est aussi un épicurien à sa manière. Je le cite, un livre, un bon lit, une table bien garnie, une musique pour vous caresser les oreilles. Ainsi, vous aimerez à le côtoyer, jusqu'à regretter de le quitter en refermant ce livre. Autre qualité, c'est, ça va être drôle, ça va vous faire drôle, la manière d'aborder l'horreur de la dictature. Là, pas de surenchère, de scènes violentes et insoutenables. La plupart du temps, les barbaries sont uniquement suggérées. Mais les peurs, les souffrances, elles sont là. Dans le regard d'un personnage, dans quelques mots, dans une attitude, dans leur cauchemar. Heredia cite ainsi Raymond Carver. « Le passé déferle sur mon sommeil quand j'essaie de dormir. » L'évocation en est d'autant plus puissante. Et il semble au moins, que nous approchons grâce aux mots de Ramón Díaz Heterovic ce qu'ont vécu les Chiliens sous la dictature, ce qu'ils vivent maintenant dans cette démocratie bancale où bien des tortionnaires côtoient leurs victimes. Même si, on le sait, aucun mot ne saura jamais décrire ces horreurs. Enfin, la qualité la plus remarquable de ce roman, pour moi, comme les précédents d'ailleurs, c'est le style et la narration de l'écrivain sud-américain, tout à la fois ludique et lyrique. Côté ludique, Díaz Heterovic se met lui-même en scène, comme le scribouillard qui rencontre le détective de temps en temps pour raconter ses aventures. Ainsi, Heredia semble lui-même plus réel que son créateur. Côté lyrique, vous apprécierez surtout la justesse des mots, la pudeur des sentiments qui donne une musique très particulière à ce récit. L'auteur joue vraiment une partition tout en finesse, de mouvements lents et graves, jusqu'à de petites fugues enlevées et plus légères. Sans oublier, évidemment, constamment, comme il s'y a une musique sud-américaine, le lointain écho d'un bandoneon qui égrène ses notes nostalgiques et désenchantées. Tiens, bandoneon, et si on écoutait Piazzolla, accompagné de Jerry Mulligan, ça devrait le faire. We'll be right back. Voilà, c'était Jérémy Ligan et Astor Piazzolla pour un air de Buenos Aires que Jean-Marc Laherre, que nous accueillerons maintenant, prononcerait beaucoup mieux que moi. Un petit hommage à votre côté d'Amérique latine. Jean-Marc, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, on vient de parler d'un roman de Ramón Díaz et Terovic, qui est, je crois, un des auteurs que vous aimez bien aussi.
Oui, oui, oui.
Alors, on va passer en Amérique du Nord pour parler d'un livre qui est paru aux éditions Sonatine très récemment.
Oui, exactement. C'est le dernier roman de Kem Noon, un auteur américain. Ça s'appelle Tijuana Straits et c'est donc paru chez Sonatine, traduit par Nathalie Zimmerman. Alors, Kem Noon n'est pas un auteur qui n'est pas suffisamment connu, je pense, ouais, en France. C'est un auteur qui a peu écrit, il faut dire. Trois livres avaient été publiés à l'époque en série noire et dans la noire, qui ont été en partie repris chez Folio, sauf le dernier, Le Sabot du Diable, qui va bientôt être publié chez Folio aussi. Et le voilà donc avec un quatrième en France, qui s'appelle Tijuana Straits. Alors, comme son nom l'indique, ce roman se déroule du côté de la baie de Tijuana, des deux côtés de la frontière. Et on suit un personnage qui s'appelle Sam Fahey, la mouette, qui en son temps a été une légende. À l'époque où la baie de Tijuana était encore un petit paradis, ça a été le disciple du grand surfeur de l'endroit et un des rares à avoir surfé ce que les quelques qui la connaissent appellent la Mystic Peak, la vague monstrueuse qui, voilà, une fois tous les 10 ans, quand les conditions sont réunies, déferle sur la baie. Donc son mentor, s'appelait Audie Younger, a disparu depuis des années. On ne sait plus ce qu'il est devenu, alors qu'il a été le premier maître nageur de San Diego, qu'il avait formé entre autres Sam Fahey. Et Sam, lui, depuis ce temps-là, ben, il a plongé complètement, il a laissé le surf, il a commencé à prendre de la drogue, à en vendre, il a fait de la prison, il s'est beaucoup débattu avec un père qui était un abominable individu. Et aujourd'hui, c'est un homme brisé qui a voulu oublier son passé et qui vit dans une ferme perdue et cachée au fin fond de la vallée de Tijuana, où il élève des vers.
Bref, voilà. Un beau personnage de roman noir.
Voilà, un beau personnage de roman noir qui ne veut plus rien faire et qui s'est retiré du monde. Et bien entendu, pour qu'il y ait roman, eh bien, il ne va pas pouvoir rester retiré du monde. Ouais. Et il revient le jour où il recueille une jeune femme mexicaine qui vient d'échapper miraculeusement à la mort. En fait, côté Tijuana, deux hommes ont essayé de la tuer. Et elle a réussi à leur échapper. Elle a failli mourir en mer, coincée sous la monstrueuse frontière barrière qui sépare maintenant à cet endroit les États-Unis du Mexique. Mmh. Et puis elle a été recrachée sur la plage d'une certaine façon.
Oui, c'est imagique, mais ça explique bien ce que ça veut dire.
Oui, voilà. Et cette jeune femme, elle ne sait pas pourquoi on a voulu la tuer, mais les raisons ne manquent pas, parce que d'une part, elle est jeune, elle est belle, elle est passionnée. Elle s'occupe d'un foyer de femmes battues, donc elle a défendu parfois des femmes contre leur mari. Et elle est aussi au service, elle travaille avec une avocate activiste qui s'attaque aux gros industriels américains, mais pas que, européens aussi, qui s'installent à Tijuana, juste à la frontière, pour pouvoir exploiter les gens, polluer tout ce qu'ils savent et faire tout ce qu'ils n'ont pas le droit de faire dans leur beau pays. Donc les raisons de la tuer ne manquent pas. Mais elle va réussir à faire sortir un peu Sam de sa léthargie et à l'obliger de nouveau à affronter le monde. Et l'affrontement, bien entendu, va être virulent.
Oui. Ça va lui changer des vers à soie.
Voilà. C'est même pas des vers à soie, c'est des lombrics. Hein. C'est des vers à compost.
Ah oui, effectivement.
Ah oui, c'est même pas des vers à soie, c'est des vers à compost. Il est vraiment allé au fond. Et donc, voilà. Donc, ben, il y a tout ce qu'on aime dans ce polar, finalement. Parce que d'abord, il y a ce héros qui est cassé, qui est perdu, qui est hanté par ses fantômes, ses démons, toujours à la limite de la rupture, et pourtant ben, plein de ressources, parce que c'était quand même un surfeur de légende, et donc c'est pas n'importe qui non plus. Alors, ça peut paraître cliché, dit comme ça, ça n'est d'ailleurs un cliché, mais quand un cliché est aussi bien manipulé, ben, c'est fantastique, voilà. Et donc là, ça marche. Ensuite, il y a un rapport à la nature qui sont capables de rendre les Américains.
Les Américains sont spécialistes. On va parler d'un hiver de glace tout à l'heure avec François Guérif, et c'est vrai qu'ils nous décrivent toujours des endroits de nature qui sont tellement prégnants vis-à-vis des humains qui y sont que c'est toujours magnifique.
Voilà, et là c'est encore le cas. Donc on a bien sûr, on connaît le cas des auteurs de chez Gallmeister avec leur rapport à la montagne, aux immensités. Et là, chez Kem Noon, comme chez un autre auteur de San Diego qui est Don Winslow.
Oui, je pensais à lui en passant au surfeur.
Et bien sûr, voilà, il y a le surf et la mer. Et Kem Noon n'a pas son pareil pour rendre cette espèce de mystique du surf un peu, cette façon de... Et qu'on arrive à ressentir sans avoir jamais surfé, il n'y a pas besoin, mais un mélange de respect, de peur, de jouissance face à cette espèce de force de la nature qu'est la vague. Et surtout là, on arrive, bien entendu, vous vous doutez bien qu'à un moment, elle va arriver, la Mystic Peak, elle va arriver, la fameuse vague monstrueuse. Et puis, autour de tout ça qui donne déjà un roman fascinant, il y a tout le fond avec la situation de cette frontière, avec la misère des migrants, avec cette barrière honteuse qui est érigée entre le Mexique et les États-Unis, avec la violence faite aux plus pauvres, et en commençant par les femmes, bien entendu, avec le scandale de ces usines dont Patrick Barthes parle dans son roman La Frontière
qui se passe aussi. À peu près d'ailleurs à la frontière mexicaine aussi.
Oui aussi, mais côté Texas. Donc il y a tout ça qui est extraordinaire. D'autant plus extraordinaire que Kem Noon, qui est un grand auteur de romans noirs, ne fait pas d'angélisme et ne fait pas, il n'y a pas les gentils, les méchants. Les pauvres mexicains exploités peuvent très bien se transformer en bourreaux. Enfin voilà, il n'y a rien n'est simple. Et puis justement, pour finir de faire un bon polar, il faut des méchants qui tiennent la route. Et là, il y en a deux qui sont vraiment pas piqués des hannetons. Donc voilà, il y a tout pour faire un excellent roman noir. C'est un très grand roman noir qui prend aux tripes, qui donne des grands moments d'émotion et qui est finalement à l'image de tout ce que Kem Noon avait écrit jusqu'à présent.
Oui, et puis il y a ce côté donc roman social avec le fait de dénoncer effectivement toutes ces installations et tous ces produits chimiques.
Ah oui, ça c'est terrible, sur la pollution, l'exploitation, le cynisme, ça c'est terrible. Et tout ça est fait, bien entendu,
c'est pas didactique.
C'est pas un pamphlet, c'est pas un essai, c'est un grand roman. Voilà.
Et un grand roman noir. Donc on va rappeler les coordonnées, on va dire, de ce livre. Donc c'est de Kem Noon, Noon, N-U-2-N.
Voilà. Tijuana Straits, chez Sonatine, traduit par Nathalie Zimmerman et pisté, je crois qu'en avril ou mai, Le Sabot du Diable. Qui
voilà,
est
il me
précédent.
Semble avoir vu chez Folio Policier, me semble-t-il.
Chez Folio Policier, c'est aussi un immense roman noir qui se passe, lui, dans le nord de la Californie et toujours autour du surf.
Alors, puisqu'on parle de surf, je voudrais reciter, parce que c'est un de nos romans, enfin un de mes romans favoris, c'est La Griffe du Chien de Don Winslow, qui est en point seuil. Don Winslow qui nous a parlé dans son précédent roman d'un surfeur aussi, d'une bande de surfeurs. Oui. Et si je parle de Don Winslow, c'est que va sortir incessamment sous peu le prochain qui s'appelle Savage. Et ça, je ne veux pas en parler, je ne l'ai pas encore lu, mais je pense qu'on va se délecter du futur roman de Don Winslow. Il paraît dans ces jours-ci aux éditions du Masque.
Et c'est avec le même personnage que La Patrouille
mystère,
de l'Aube.
Ah, mystère, monsieur RR, vous le découvrirez. On en parlera ensemble, je pense.
On en parlera alors. On en parlera certainement.
Jean-Marc, on vous retrouve sur votre blog, Actu du Noir. Voilà, avec plein de bons conseils de romans et de très belles chroniques. Merci beaucoup, Jean-Marc. À bientôt.
Merci. Bonne soirée.
Merci. Voilà, donc un livre aux éditions Sonatine. Je vais rappeler, puisqu'aujourd'hui, on ne va pas dépasser l'horaire, des livres dont nous avons parlé, dont j'ai parlé dans cette émission. Donc, dans la première partie, un film, Winter's Bone, mais aussi un très très beau roman qui vient de reparaître en collection Rivage Noir de Daniel Woodrell, Un hiver de glace, traduit par Franck Reichert. Ensuite, aux éditions Liana Levy. Alors, si vous le voyez en rayon, vous ne pouvez pas le louper. C'est jaune comme un taxi new-yorkais. Ça s'appelle Arrêtez-moi là. C'est de Yin Levison et c'est traduit par Fanchita Gonzalez Battle. J'espère que je n'écorche pas son nom. Et voilà. Et on vient de parler de Tijuana Straits de Kem Noon aux éditions Sonatine. Voilà, je rappelle que vous pourrez retrouver les émissions en différé à podcaster sur le site de La Noire Haute. Vous avez qu'à taper Onde Noire dans Google, ça marche tout seul. Et puis, bah, aujourd'hui, on va écouter un petit peu plus de notre générique. Bye bye, à bientôt.